Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonsoir, nous sommes le 20 novembre. Il est 18h et nous recevons ce soir François Côté, qui est chargé de cours à l'université de Sherbrooke en faculté de droit. Et c'est lui qui nous a proposé le générique du soir pour cette émission. Ce ne sera pas notre générique habituel. Ce sera une chanson des Cowboys Fringants, un hommage. La chanson s'appelle « En berne ». C'est une magnifique chanson que nous allons maintenant écouter.
Les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort aux gosses d'un pangalo, le QSC, c'est statu quo. On se ramène de téléromans et le talk show les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air. Quand est dans ce royaume de la poutine, on se complète en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Un petit gratteux me dit caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit deux être millionnaire, c'est le bonheur. Je mets à rêver le samedi qui va peut-être vider son taudis. J'espère toujours mon dimoron. Une chance sur 14 millions, un stationnement du casino. Me torsir une balle dans la tête, ayant tout clouvé son magot. Elle fait trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le ferait un poster. Québec moderne, mais moi je le monte à peau en berne. Et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti. T'as bien plus de chances de gagner à la vie. On a été pendant des années un petit peu de yes man qui marchait les fesses serrées quand arrivait le Portman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gars sont tous syndiqués, ça genre 3-4 autour d'une belle en regardant le plus jeune père du zèle. On n'a pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite. C'est des pleins de marins comme c'est d'eau quand le monde d'une grosse corporation comme son usine en Gaspésie te demandera pas ton opinion. Il va se laquer sans dire merci. Dans la rue, au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, mais non les problèmes de l'affaire. Pas de ma pauvre cité, un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je préfère être premier ministre, mais semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens. Alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On en entend beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi, je le montre à la peau en verre, les gens d'air. Les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, ben ça mon homme, c'est ton avis. Tu dois être le PDG d'une compagnie. Que dans le Nord, il se passe de quoi de quoi de catholique. Que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. Deux semaines et ça sombre dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérendrye. Qui continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. Y'a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. On sert les riches et les rentiers, on sait qu'on est peuple paysignant. On va donc se rappeler de son histoire et c'est que juste les plaques de genre. J'ai encore un petit peu de mémoire.
En Berne, les Cowboys Fringants, ça marque le Québec profondément. La mort de Carl Tremblay, c'est vraiment quelque chose qui secoue tout le pays. On a vraiment le sentiment que qu'une icône est morte. Qu'est-ce qui symbolisait Carl Tremblay pour le Québec?
Carl Tremblay représentait, c'était la voix de la chanson québécoise d'une nouvelle génération, celle qui succède à Charlebois, à Plume la Traverse, à celle de nos parents. C'est, pour moi, en tant que milléniaux, bon, si je peux revêtir cette étiquette, Carl Tremblay et les Cowboys Fringants étaient le groupe de musique qui nous a accompagnés durant notre jeunesse, notre réveil à l'âge adulte. C'était le groupe que j'écoutais quand j'étais au cégep. C'était, j'ai participé à des manifestations sous les notes de la manifestation des Cowboys Fringants. C'était la grande musique, le grand renouveau, l'espoir. Et en même temps, toute la vision d'une nouvelle génération sur le Québec d'aujourd'hui et de demain. Et ça, la perte, le décès tragique de Carl Tremblay à 47 ans seulement. Bon, alors, pour moi qui aura bientôt 40 ans, ça fait réfléchir sur notre propre vie, mais ça rappelle aussi que autant certains chanteurs, certaines personnes peuvent laisser une marque très personnelle, tristement éphémère, mais profondément durable en même temps. Carl Tremblay aura été ça à la chanson québécoise. Ça aura été un pilier qui aura rallumé la flamme de la musique québécoise pour une génération au complet, et je n'ai aucune hésitation à dire que, au travers de ses chansons, au travers de tout ce que les Cowboys Fringants ont fait, Carl Tremblay est devenu un immortel dans le panthéon musical québécois. Et si on a énormément de tristesse de l'avoir perdu, tout le répertoire qu'il nous aura légué va rester là pour l'éternité.
Je crois qu'on peut pas dire mieux, effectivement. François Côté, vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes chargé de cours à la faculté de droit, à l'université de Sherbrooke. Vous êtes dans une filière qui s'appelle droit politique appliqué à l'État. Qu'est-ce que c'est que le droit politique appliqué à l'État?
Alors, techniquement, il s'agit du programme de droit et politique appliqué de l'État. C'est un nouveau programme que nous avons démarré ici à l'Université de Sherbrooke il y a 2 ans. Nous sommes dans sa deuxième année. C'est un programme conjoint qui s'offre à la fois par la faculté de droit et l'école de politique appliquée, sous ma direction en tant que chargé de cours à Fort Fait, responsable du programme. Ce programme vise à répondre à une demande, ma foi, criante au sein de l'État et de la haute fonction publique, d'avoir des personnes qui sont à la fois qualifiées dans le domaine juridique et dans le domaine politique, à être capable de naviguer dans les méandres d'une conférence de presse, être capable de pouvoir entendre les intérêts des citoyens et des justiciables, être capable de faire une recommandation au ministre, tout l'aspect politique d'une part, et aussi d'autre part, tout l'aspect juridique. Comment fonctionne la légistique derrière la rédaction d'un projet de loi? Quelles sont les libertés fondamentales qui servent de paramètres et de lignes à ne pas dépasser par les légistes et les législateurs? Comment fonctionne le droit? Comment s'interprète la Constitution? Toutes ces deux disciplines sont mobilisées constamment dans la haute fonction publique au sein de la chose d'État, ainsi que dans tous les domaines de la société civile qui gravitent autour de la fonction publique et de la chose d'État, pensant les lobbies, les groupes, les différentes organisations de la société civile, les organisations médiatiques et autres. Bref, tout ce qui s'intéresse à la chose publique. Actuellement, on a un besoin criant d'avoir une expertise conjointe dans ces deux domaines-là. Et nous, à la Faculté de droit et à l'Université de Sherbrooke, on a voulu, ainsi qu'avec l'École de politique appliquée, on a voulu absolument répondre à cette demande en créant une nouvelle formation interdisciplinaire hybride qui allie à la fois le droit et la science politique pour faire des nouveaux juristes politologues qui seront polyvalents et compétents à pouvoir prêter directement, prêter l'épaule à la roue aux efforts de création et d'avancement des lois et des politiques qui nous gouvernent pour permettre justement aux hautes sphères de l'État ainsi qu'auprès de ceux qui les regardent et qui les surveillent d'avoir une compréhension réunie et cohérente des divers enjeux à la fois juridiques et politiques que ça soulève. Puis, jusqu'ici, le succès est retentissant. On en est juste à notre deuxième année, mais on a littéralement un taux de placement de 100% de nos étudiants jusqu'ici. On accumule une après l'autre les grandes conférences, les grands événements. Je vous dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il y a un besoin bien appuyé sur le marché du travail. Et nous, ici, à la Faculté de droit, à l'École de politique appliquée et plus largement à l'Université de Sherbrooke, on cherche à y répondre. Et étant donné que vous m'avez cédé le micro, je ne pourrais pas manquer l'occasion de vous indiquer à tous et toutes de venir nous voir sur notre page web du DPAE, Droit et politique appliquée de l'État, de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Les admissions sont ouvertes jusqu'au 1er mai.
Est-ce qu'il s'agit, d'une certaine manière, de reformer une élite, en quelque sorte, dans l'idée de la reconstruction, de l'idée de l'état de droit dont on entend beaucoup parler, qui est tombé un peu en désuétude, on a l'impression, depuis quelques années? Est-ce qu'il s'agit de reconstruire une pensée autour de l'état de droit, de ses concepts, de qu'est-ce que ça suppose, de remélanger justement le droit? D'un certain côté, on dit qu'il y a une judiciarisation du politique, de l'autre côté, on dit que le politique n'y connaît plus rien à l'état de droit. Est-ce qu'il s'agit de recombiner un peu les deux, justement?
Pour des raisons terminologiques, j'accroche un petit peu sur le terme élite, mais à part de cela, je vous dirais que pour ce qui est de construire des experts, oui, absolument, de nous redorer la haute fonction publique québécoise, la haute sphère intellectuelle québécoise, de personnes qui sont à la fois experts, mais aussi sensibles. Parce que, bon, derrière l'idée de l'élitisme, il y a toujours la critique voilée du détachement face au peuple ordinaire. Ce n'est pas ça qu'on fait au DPAE. Au contraire, on veut amener des gens qui sont à la fois capables de comprendre ces degrés d'expertise, ces hauts niveaux théoriques et pratiques qui sont mobilisés devant la chose politique et judiciaire au domaine de l'État, tout en leur permettant d'être profondément ancrés et proches de la réalité vécue sur le terrain, tant celle des conseillers politiques qui doivent se réveiller à 6h le matin pour aller assister à une mêlée en préparation de la journée folle qui s'en vient, que monsieur, madame, tout le monde qui cherche à savoir et à comprendre comment vont fonctionner les lois et les politiques de l'État. Donc ici, il y a un besoin au sein de notre fonction publique de ramener le politique et le droit ensemble dans la chose étatique. Et on veut être capable de former des experts polyvalents qui seront proches de leurs racines, qui seront proches à la fois de l'État et de la nation et des théories, disons, théoriques, académiques et pratiques qui sont nécessaires à leur exercice. Alors, dans ce sens-là, élitisme, non. Expertise, oui, absolument.
Alors, c'est vrai que élitisme, j'entendais élitisme républicain.
Alors oui, effectivement, si on met de côté cette petite parenthèse terminologique, entendons-nous pour dire qu'on construit une expertise et on en est très fiers.
Au fond, c'est assez logique de vous retrouver à cette conjonction, parce que vous-même, vous êtes un acteur à la fois du droit et de la politique, par votre implication dans la laïcité. Vous êtes un acteur important autour de tout le débat, autour de la loi sur la laïcité actuellement au Québec et depuis quelques années. Est-ce que c'est un peu ça, finalement, qu'on retrouve?
Ma foi, vous êtes bien généreux de me qualifier d'acteur important de la laïcité. Je le reçois avec humilité. Merci beaucoup. Bon, c'est pas le seul domaine, bien sûr, dans lequel je me suis impliqué, mais c'est effectivement, aux côtés de la langue française et puis de la défense de notre tradition civiliste, c'est un de mes trois grands piliers d'interaction dans le domaine politique québécois. Et, ma foi, je vous dirais, j'ai horreur de me prendre comme exemple, sauf peut-être comme mauvais exemple pour dire à mes étudiants quoi ne pas faire. Mais, de manière générale, je vous dirais que, sans me prendre comme exemple, oui, on cherche à construire, on cherche à permettre au Québec, à la société québécoise, à la communauté juridique et politique québécoise, de renouer avec des experts, avec des citoyens, avec des justiciables, avec des individus, des hommes et des femmes, qui ont la nation, la politique et le droit à cœur et qui veulent en faire plus, s'impliquer, contribuer et participer à la régulation de ces dossiers qui sont tout sauf simples à bien des endroits. Jusqu'ici, et c'est un peu dans ce sillage que je me suis moi-même dans mon propre parcours inséré, jusqu'ici, ben, en droit et en politique, c'était une formation largement de terrain. Dans le sens que, bon, oui, il y a toujours des écoles d'administration publique, mais en même temps, aller rejoindre à la fois le droit et la politique, à part quelques programmes de formation internationale, il n'y avait tout simplement rien de tel qui existait au Québec. Ouais. Et ben, la formation qu'on voulait obtenir, un juriste qui était intéressé par la chose politique ou un politologue qui était intéressé par le droit, eh bien, c'était une formation de terrain. C'est, ben, vous deviez gravir les échelons, vous deviez vous placer aux bons endroits, bénéficier des bonnes opportunités pour forgez vous-même votre propre formation. Et c'est un parcours qui est particulièrement ardu et qui est pas toujours tendre non plus. Ça dépend des opportunités, ça dépend des disponibilités. Il peut y avoir beaucoup de blocages personnels, académiques, financiers, carriéristes et ainsi de suite. Et avec un programme académique, ben justement, on vient offrir cette possibilité déjà avec une structure, avec des enseignants, avec des ressources, avec du matériel et tout, pour donner cette voie de formation qui n'est bien sûr pas, qui ne saurait jamais être exhaustive. Bien sûr, on ne fait que la formation et l'éducation, on la commence, on ne la finit jamais, mais au moins on est en mesure d'offrir cette voie de formation vers une capacité de pouvoir intelligemment et constructivement analyser, remettre en cause et contribuer à l'évolution du droit et de la chose politique.
Donc, est-ce que Locke et Montesquieu en auraient rêvé?
J'aimerais leur faire dire, en espérant qu'ils ne se retourneront pas dans leur tombe à m'entendre, mais j'ose croire que Locke et Montesquieu, peut-être un peu plus Montesquieu, mais là c'est le civiliste en moi qui parle, mais j'ose à croire que leur vénérable dépouille sourit en regardant notre programme.
La laïcité, c'est quoi aujourd'hui?
La laïcité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Il y aurait plusieurs manières de le définir. projet de société, encadrement collectif de la chose religieuse au Québec, aspiration nationale, projet de vivre ensemble. Il y a plusieurs manières de voir la laïcité, mais ultimement, si on avait à la résumer à son essence fondamentale, la laïcité, c'est l'idée que toute et chaque personne au sein d'une société a un droit souverain et fondamental à son intégrité religieuse personnelle. Elle a le droit d'avoir ses propres convictions personnelles profondes et de ne pas subir de pression, pour, que ce soit au niveau des croyances ou au niveau des pratiques, de la part des autorités officielles, que ce soit dans le sens favoritisme ou dans l'autre sens de l'oppression. Bref, que l'État doit être absolument neutre en matière religieuse parce qu'il s'agit d'une question hautement personnelle et hautement privée. Mais en même temps, cette question autant hautement personnelle et hautement privée, c'est un choix personnel propre à chaque individu, à tous et chacun d'entre nous, et un choix qu'on ne saurait imposer à autrui. Et ça vient avec toute cette non-imposition à autrui de tout le contenu normatif et des valeurs qui viennent avec une religion. Dans la mesure où la religion est une affaire personnelle, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une distinction fondamentale à effectuer entre les croyances religieuses, qui sont absolument souveraines, et les pratiques religieuses, qui, elles, sont des comportements sociaux, qui, à partir du moment donné où elles s'extériorisent du fort intérieur de l'individu, ça ne relève plus de la croyance, c'est une pratique. Et ça, dans notre tradition de droit civil, on fait cette distinction depuis fort longtemps. La religion, si elle est un choix, la question de l'exprimer est également un choix. Et la question du code normatif qui vient avec une religion, les commandements de faire ou ne pas faire quelque chose, et ainsi de suite, l'adhésion à de tels codes normatifs devient également un choix. Et ce choix personnel ne saurait être imposé par devant les choix personnels d'autrui, ni par devant les choix collectifs qui sont issus de la volonté commune, sans, par là, créer une certaine forme de privilège où le choix de l'individu dépasserait le choix d'autrui ou le choix du collectif.
Alors, on l'entend bien sur le plan théorique, mais maintenant, d'une manière pratique. On a eu deux modèles en Europe. Le modèle anglais, où la laïcité est très ouverte, très libérale.
Ce serait plus le sécularisme dont vous parliez. Il n'y a pas vraiment de mot pour laïcité en anglais.
C'est vrai, même si John Locke... Mais, et en France, au contraire, une laïcité qui s'évolue ferme sur les principes. Et aujourd'hui, les deux modèles paraissent tous les deux en échec. Est-ce quel modèle pour le Québec demain ? Puisque finalement, les deux grands modèles concurrents, britanniques et français, semblent avoir tous les deux échoué.
À cela, je vous dirais qu'il faut faire bien attention quand on regarde ce qui se passe avec d'autres modèles pour prendre en compte le contexte où ces modèles ont lieu. Le contexte britannique n'est pas le contexte québécois. Londres, ce n'est pas Montréal, Dieu merci. Et de même chose, le contexte français, ce n'est pas le contexte québécois. Paris n'est pas Montréal, Dieu merci encore une fois. Bon. Mais donc, je vous dirais que la laïcité québécoise, elle ne se situe ni à Londres ni à Paris, elle se situe à Québec. Dans le sens que nous avons notre propre réalité, notre propre société, notre propre profil démographique qui est bien différent de celui qu'on retrouve en Angleterre, bien différent de celui qu'on retrouve en France, aux États-Unis ou dans bien d'autres pays. Et nous avons notre, ultimement, la laïcité, puis là, si je peux résumer, ce serait la capacité pour le Québec de déterminer par et pour lui-même quel est au juste l'équilibre qu'il souhaite atteindre. Et cette capacité de pouvoir le déterminer par nous-mêmes, nous l'avons arrêtée à l'idée de dire, lorsqu'il est question de représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions dans certains domaines, c'est ce que prévoit la loi sur la laïcité, on considère qu'il n'y a pas à voir et il n'y a pas à exposer des symboles religieux dans l'exercice de telles fonctions. Parce qu'à partir du moment donné où certains types d'employés de l'État revêtent une charge publique ou un emploi public, ils incarnent, ils représentent l'État et ils n'ont pas à incarner ou représenter une religion au travers des symboles qu'ils arborent dans l'exercice de leurs fonctions.
En quoi ce serait gênant ? Parce que finalement, le modèle canadien nous propose le modèle multiculturaliste avec une liberté individuelle totale, donc y compris le port d'un signe religieux, y compris dans le cadre public, et à la limite, pourquoi pas?
Alors, il y a deux éléments. Alors, le premier... allons-y avec les deux éléments. Commençons par le premier. Le premier, c'est dans la perception de neutralité réelle ou perçue. du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Et quand je dis réel ou perçu, alors je suis tout à fait d'accord pour concéder qu'un fonctionnaire qui arborerait un symbole religieux dans l'exercice de ses fonctions peut volontairement là, et consciemment, en toute bonne foi, se faire un devoir d'agir de manière absolument neutre. Sauf que la perception est aussi importante. Que diriez-vous si vous vous présentiez à un comptoir de service public, vous présentez à un poste de police et quelqu'un vous accueille avec un chandail portant le logo d'un parti politique? Il y aurait, par cette diffusion d'un message de la part d'une personne en autorité, il y a un certain malaise face à la neutralité que l'État devrait opérer. Parce que quand...
Mais on va vous dire qu'un parti politique, c'est pas pareil qu'une idée religieuse.
Eh bien, du côté civiliste, j'aurais tendance à vous répondre que la comparaison n'est pas si différente que ça. Il s'agit d'un choix personnel quant à une série de convictions et de codes normatifs. Dans notre perception civiliste, la conviction religieuse n'est pas si différente de la conviction politique. Il y a donc quelque chose de parfaitement légitime de dire, écoutez, votre religion, c'est tout à fait bien pour vous, mais vous êtes en train, par là, par la religion que vous adoptez une série de valeurs et une série de codes normatifs. Et ne l'oublions pas, par définition, toutes les religions ont prétention à être la bonne. Donc, à partir du moment donné où vous affichez de tels symboles, de telles représentations, vous affichez publiquement, alors que vous êtes un employé de l'État dans l'exercice de vos fonctions, que vous adhérez à une telle conception de la vie bonne à l'exclusion des autres. Et vous diffusez ce message alors que vous êtes en position d'autorité. Donc déjà, il y a une inquiétude au niveau de l'image de l'État dans le regard du justiciable. Mais il y a aussi, et ça c'est particulièrement vrai en milieu scolaire, mais c'est vrai à tout l'ensemble de la fonction publique, mais particulièrement dans le milieu scolaire, il y a aussi toute l'image que représente le fonctionnaire en position d'autorité. Surtout en milieu scolaire auprès de l'enfant vulnérable. Vulnérable au sens de qui est facilement impressionnable, qui est sous l'autorité du... Dans le sens que si vous voyez un représentant de l'autorité, un professeur, un directeur et ainsi de suite, qui arbore des symboles religieux par devant et en primauté à son statut de représentant de l'État, eh bien, le message individuel et le message religieux devient validé dans l'esprit de l'élève comme ayant préséance sur le respect des règles communes. Et il y a un certain malaise à voir que le symbolisme individuel ainsi affiché puisse avoir un effet représentatif.
Mais alors, des gens vous disent aussi que c'est une façon de montrer que la société canadienne est une société pluriethnique, multiculturelle, et qu'il est important, que les gens puissent se reconnaître aussi. C'est une façon, finalement, pour les gens de se reconnaître à travers des gens qui leur ressembleraient en quelque sorte au comptoir, justement.
Et voilà, mais ces gens qui nous ressemblent, ils nous ressemblent parce qu'ils sont humains, parce que ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi, mais pas parce qu'ils appartiennent à une ethnie en particulier ou parce qu'ils ont une religion en particulier. Non. La laïcité, c'est au contraire, c'est l'éclatement des divisions, des tribalismes, des communautarismes pour aller tous se rejoindre dans l'universel.
Vous y croyez à ça?
Ah, mais absolument.
Vous croyez que c'est possible?
J'y crois absolument.
Et le multiculturalisme ne serait pas une possibilité de ça?
Le multiculturalisme aura été une possibilité, une tentative, un rêve, un cauchemar, diraient certains, dont on ne peut que constater l'échec. À mon avis, le multiculturalisme...
En quoi c'est un échec?
Regardez tout le fractionnement de la société, cette espèce de tribalisation du discours public où on commence à voir une fracture dans les intérêts de revendication ou, disons, dans le multiculturalisme, dont le wokisme est une des plus récentes évolutions, on se retrouve à voir des groupes revendicateurs qui vont essentiellement invoquer une certaine forme de refus d'appartenance au commun pour faire des revendications, sous forme, bien sûr, de velléité revendicatrice, d'un préjudice quelconque. Après ça, bien sûr, en soi, l'argument n'est pas négatif. Ça fait partie de la chose politique. Sauf qu'à partir du moment donné où on commence à glorifier le refus d'intégration à l'ensemble national, c'est quoi la seule et unique conséquence possible? L'éclatement. Et ça, on peut le voir ce que ça donne dans des sociétés qui ont embrassé à pleine bouche le multiculturalisme. Regardez, par exemple, Londres. Regardez les villes côtières, les États démocrates américains, où on voit le tissu social qui est en train de s'effondrer parce qu'il n'y a plus de sens du commun. On est plus au contraire... moi, je suis dans ma petite intersectionnalité, je suis avec ma religion, mon groupe, ma communauté et les autres... les autres ne sont plus mes alliés, ils sont hostiles. Ce sont des exploiteurs, ce sont des oppresseurs, je dois m'en méfier. Et malheureusement, lorsque vient le temps de fédérer une société pour des grandes questions d'intérêt commun qui viennent chercher tout le monde, au-delà des frontières, au-delà des divisions, au-delà de tout ce qui peut... faire la richesse et la diversité d'une société pour aller rejoindre le sens du commun, l'unité n'est plus là. Au contraire. Et ce multiculturalisme a d'ailleurs même comme effet assez pervers. Vu cette division de la société qui n'est plus capable de parler d'une voix unifiée avec des valeurs et des intérêts communs, on se retrouve à avoir une société qui est éclatée et qui devient vulnérable et en proie aux intérêts des riches et des puissants. Regardez les grands intérêts économiques, la délocalisation, les grands investisseurs étrangers et ainsi de suite qui sont capables de venir déferler sur une société qui n'est pas capable de se défendre parce que ses voies politiques sont éclatées.
Est-ce que c'est pour ça que Google, Facebook, tous ces GAFAM, etc., sont autant partisans, justement, de ce wokisme?
Ça irait probablement... Ça va au-delà de mon expertise. Alors, je ne peux vous parler que de mon impression, mais dans la mesure où on peut remarquer que beaucoup des GAFA semblent être particulièrement alignés. Alors, quelles sont les raisons qui les amènent à ce côté-là? Je ne me prononce pas. Mais quand on remarque que beaucoup des GAFA semblent être particulièrement alignés sur certaines politiques, disons, plus démocrates, plus à gauche, et ainsi de suite, du côté américain, qui... se rapproche beaucoup plus de ce qu'on pourrait qualifier de multiculturalisme ici au Canada. Bon, de multiculturalisme, allons-y franchement. J'aurais tendance à vous dire que ça ne m'étonne pas. J'ai l'impression de voir que... Non, effectivement, ça ne m'étonne pas.
Mais est-ce qu'il faut effacer les différences?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Est-ce que, finalement, si on lutte contre le multiculturalisme, ça veut dire revendiquer d'effacer les différences et que les gens doivent tous être normés de la même manière?
Non.
Est-ce que la laïcité, en quelque sorte, c'est une forme de normalisation de l'individu?
C'est d'inclure toutes les différences à l'intérieur d'un projet commun où aucune des différences ne cherche à l'emporter sur l'autre et elles travaillent toutes ensemble à converger vers une culture commune.
Une convergence, en quelque sorte?
Une convergence culturelle, on peut l'appeler comme cela.
Et comment ça consisterait, cette convergence culturelle?
La convergence culturelle, c'est un modèle d'intégration de la diversité, bon, diversité migratoire, diversité religieuse, diversité au sens large. C'est un modèle d'intégration de la diversité qui est celui du Québec depuis, ma foi, essentiellement la Nouvelle-France. Ça fait longtemps qu'on l'a comme modèle. Alors, petite ouverture, petite parenthèse historique. Le Québec, quand nous étions Nouvelle-France, c'est faux de penser qu'on avait uniquement des origines sociologiques uniques. La France était très morcelée à cette époque-là. Il y avait plusieurs... il y avait des droits régionaux, il y avait des coutumes régionales, il y avait encore plein de dialectes locaux et tout. Donc, la Nouvelle-France s'est construite sous une belle forme de, disons, de diversité culturelle intra-française, mais de diversité culturelle quand même, qui nécessitait d'avoir un point commun, un point de convergence où on est capable de mettre de côté nos différences régionales, se rendre compte qu'on est beaucoup plus liés par des points communs et tous travailler ensemble vers une convergence où tous les éléments qui font partie de cette espèce de culture commune vont servir de point de rassemblement. Et après ça, ce qui provient de la diversité, diversité migratoire, religieuse, tout type de diversité, ce qui provient de la diversité va avoir pour mission de tendre vers cette convergence culturelle du modèle de la société d'accueil et d'y apporter, et c'est ça la grande distinction par rapport à l'assimilationnisme, par exemple, que je rejette, et d'y apporter...
Mm-hmm. C'est quoi la différence?
La différence, elle est là, c'est que dans la convergence culturelle, la diversité vient apporter à la culture de la société d'accueil ses contributions qui sont compatibles avec ses valeurs, avec ses institutions, son histoire et son droit. Donc, il n'y a pas de fermeture à l'entrée. Prenons par exemple une personne qui arriverait de la diversité migratoire et qui veut s'intégrer à une société qui adopte le modèle de la convergence culturelle. Ses apports pédagogiques, culinaires, culturels, ses apports linguistiques et autres, dans la mesure où ils s'intègrent harmonieusement avec le modèle national de la société, ils sont les bienvenus et ils vont permettre à la société de s'enrichir, de ne pas stagner, parce que la stagnation, c'est la mort d'une société. Mais en même temps, supposons que cette personne vient d'un État où la polygamie est respectée. Et, eh bien, au Québec, ça, par contre, ce n'est pas quelque chose qui franchirait la ligne, parce que c'est à l'encontre du droit et des valeurs de la société d'accueil. Il y a un certain processus d'harmonisation et de...
minimum de règles communes, en quelque sorte.
Voilà, règles communes, droits communs, valeurs communes et histoire, mais on peut aussi la rejoindre par adhésion commune.
Est-ce que la laïcité est justement un point capital, déterminant, prédominant dans la longue quête du Québec vers son indépendance, sa liberté, en offrant justement un modèle de société face à tous les autres qui peuvent exister?
Alors, est-ce que c'est le modèle du Québec? Oui. Est-ce que c'est le seul modèle qui existe? Non, j'imagine que bien d'autres États dans le monde doivent avoir leur propre modèle. Cependant, la laïcité, il faut aussi savoir d'où elle vient pour comprendre où elle va. C'est que la laïcité, c'est la continuité de l'évolution de la société québécoise depuis essentiellement la Révolution tranquille. Et puis, en elle-même, c'est plus antérieure encore. Mais si on regarde historiquement, lors de la Révolution tranquille, c'est là où l'impulsion de laïcité, dont actuellement la laïcité 2.0, la loi sur la laïcité de l'État, est essentiellement l'extension naturelle. Lors de la Révolution tranquille, nous avons rejeté la normativité religieuse. L'idée qu'une religion, au travers de l'Église catholique en tant qu'institution, nous avons rejeté l'idée qu'une religion puisse imposer un contenu normatif qui doive recevoir force politique et qui doive s'imposer jusque dans la vie des individus, même jusque dans la vie de ceux et celles qui n'en veulent pas.
Mais alors, est-ce qu'on remplace finalement un absolutisme clérical, en quelque sorte, d'une église qui voulait s'introduire jusque dans la... dicter les comportements des gens?
Jusque dans la chambre à coucher, on
voilà.
voulait dire.
Mais est-ce que quelque part, on n'est pas en train de remplacer un absolutisme par un autre, avec un État qui lui aussi aurait tendance à vouloir dicter les comportements individuels?
Non, il faut redescendre sur terre, là. Non, du tout. La loi sur la laïcité... Alors, ce qu'on critiquait de la religion catholique durant l'époque de la Révolution tranquille, c'était justement que la religion se permettait de venir dire aux politiques quoi faire et de venir dire aux individus quoi faire, même s'ils n'en veulent pas. Or, la laïcité, c'est complètement l'inverse. C'est de dire, vous ne pouvez pas imposer la religion au travers de la loi, au travers de l'appareil d'État, à des personnes qui n'en veulent pas.
Et l'Inquisition?
J'aimerais qu'on me dise s'il y a un seul endroit, un seul moment au Québec où la laïcité est venue imposer à quelqu'un une religion dont il ne veut pas. Et même, j'irai plus loin, on dit que... Alors, la laïcité, lorsqu'elle dit que un employé de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, doit s'abstenir de porter des symboles religieux au travail. Alors, il n'y a pas une telle chose qu'un droit fondamental à exercer un emploi dans la fonction publique. Et dans la mesure où, et c'est notre position épistémologique, dans la mesure où le Québec part de la prémisse que la religion est un choix personnel, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a personne qui force quiconque à être employé de la fonction publique, et la question d'exprimer ses convictions religieuses au travail devient un choix. Ça devient une condition de travail. Tout comme on pourrait tracer des parallèles avec le port d'un uniforme, par exemple. Ou alors, supposons par exemple que... je vais prendre un autre exemple, beaucoup plus écarté, mais juste pour illustrer. Supposons que je sois végétarien et que la cruauté contre les animaux, je sois absolument contre, que la viande, le sang et tout ça, je suis résolument contre. Je n'irai pas travailler dans un abattoir. Est-ce que quelqu'un me force à ne pas aller travailler dans un abattoir? Non, c'est juste qu'en fonction de mes valeurs et des choix que je fais, chaque personne va devoir supposer, bon, bien, l'emploi que je convoite, il vient avec telle condition. Est-ce que je peux maintenant imposer ma religion pour écarter ces conditions et écarter cette neutralité et l'imposer dans l'exercice de mes fonctions?
Alors, on a bien compris.
La loi sur la laïcité de l'État vient dire, non, vous ne pouvez pas faire ça.
On l'a bien compris. La laïcité, c'est donc une forme d'ouverture, de tolérance.
Et... Absolument, oui, voilà. Oui, oui.
Mais alors, justement, la laïcité relève donc de la question de l'état de droit.
Tout à fait.
Est-ce qu'on est encore en état de droit? Et là, c'est pas les religions, mais c'est bien des états laïcs qui prennent des mesures partout en Europe, en Amérique du Nord, de censure, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, l'enfer étant pavé de bonnes intentions avec les meilleures intentions du monde. Or là, cette inquisition, elle est bien laïque, quelque part.
Là, par contre, excusez-moi, mais vous faites une association qui m'apparaît assez grosse, assez massive même. Donc, pour ce qui est de la censure et du contrôle de la liberté d'expression, c'est une chose. Après ça, pour ce qui est de l'encadrement de la liberté de religion, c'en est une autre complètement. J'aimerais bien respectueusement vous amener à reformuler cette question-là, parce que vous parlez vraiment de deux éléments qui sont, selon moi, complètement distincts.
L'état de droit.
Oui.
Théoriquement,
absolument.
Si on reprend Locke et Montesquieu, c'est la garantie de la liberté politique.
Oui.
La liberté individuelle. Donc la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Or, ce qu'on constate quand même depuis quelques années, partout en Occident, on voit que cette liberté d'opinion et d'expression est quand même largement mise en cause, battue en brèche. On essaie de rétablir une espèce de contrôle sur Internet pour recontrôler la parole publique et la parole politique, sous prétextes divers et variés, etc., etc. Des choses qui relèvent du pénal, d'ailleurs, pour ce qui concerne les éventuels appels à la violence, etc. C'est déjà des choses qui sont déjà condamnées par la loi. Mais derrière ces prétextes-là, on voit bien qu'il y a quand même un recul de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Je ne parle même pas de la situation en Europe avec le Digital Service Act, qui est carrément une censure directe de tous les réseaux sociaux. Bref, est-ce que l'état de droit qui s'est fondé sur l'idée des droits de l'homme n'est pas en train de devenir le droit contre l'homme ?
Formulée de cette manière, la question est plus intéressante. Alors, comment est-ce que je peux vous répondre à ça? Le phénomène remonte probablement aux post-Deuxième Guerre mondiale, reconstruction de l'Europe, le montée du néolibéralisme, New Deal et compagnie. Disons que on assiste à une certaine forme d'hyper-bureaucratisation des droits de l'homme, au sens très large. D'accord. Au sens que... alors, il y a d'un côté la question qui est strictement juridique, alors la reconnaissance des libertés fondamentales dans nos textes de droits fondamentaux, ça, le point de vue strictement juridique et strictement formel, je vais le mettre de côté, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais là, il y a aussi tout l'aspect politique. C'est que, et ça pour une série de raisons historiques qui malheureusement dépassent le cadre de l'émission, mais si vous voulez en savoir davantage, inscrivez-vous au programme de DPA. Désolé, je ne pouvais pas parler. Mais rapidement, c'est qu'au travers des droits et libertés fondamentales, et ça, on peut beaucoup, beaucoup pointer du doigt les politiques américaines. Après ça, peut-être aussi un peu en Europe, j'ai moins étudié le dossier, mais je sais qu'on peut très bien pointer du doigt les politiques américaines. C'est qu'il s'est construit depuis les années 60, 70, 80 et plus encore en montant, une certaine forme de culture de revendication des droits et des libertés fondamentales. Et ça, c'est un peu un propre de l'approche juridique de common law, c'est que cette approche de revendication consiste à dire « je suis un individu, j'ai un droit, ce droit a été bafoué, si je suis capable de démontrer que ce droit a été bafoué et que j'en vis un préjudice, j'ai le droit de réclamer quelque chose, une indemnité, une compensation, un pouvoir politique, X, Y et Z ». Et on assiste à une certaine forme de glissement, je dirais, au fil des décennies, où la capacité de pouvoir invoquer une violation à un droit fondamental quelconque devient source de pouvoir politique pour réclamer une réforme, pour réclamer une compensation financière, personnelle, publique, collective, qu'importe. Et bien sûr, les succès amassés par certains groupes ont fini par en entraîner d'autres. On observe une certaine forme de revendication, et ça d'ailleurs c'est le propre de l'intersectionnalité, c'est de chercher à représenter où et comment peut-on se prétendre victime de la société actuelle et que peut-on réclamer? Après ça, bien sûr, en soi, c'est quelque chose qui doit être. C'est absolument positif que de telles questions existent. Mais politiquement et pour des raisons intéressées, le système a connu un glissement. Et de plus en plus, on observe une certaine situation où les droits et libertés fondamentales sont beaucoup plus mobilisés à des fins revendicatrices, disons, plus intéressé que ce que je qualifierais comme d'un véritable enjeu universellement et objectivement lié aux droits de l'homme. Il y a une tendance observable à invoquer, et surtout à invoquer la perception, subjective des libertés fondamentales. Je m'estime, je me perçois victime de discrimination, donc je suis victime de discrimination, donc j'exige X, Y, Z. Et bien sûr, vous auriez tout à fait raison de me dire que Maître Côté, vous simplifiez à l'extrême. Et oui, c'est une simplification. C'est uniquement pour les fins d'une émission radio. Une excellente émission radio. mais il y a quand même une revendication de plus en plus massive des droits et libertés fondamentales pour réclamer quelque chose face à autre, face à au eux, face à la machine, face à l'ensemble de ce qui m'est hostile.
Face à l'État?
face à l'État, mais aussi face à son prochain, où on commence à être... Et ça, ben, c'est une des conséquences de la désagrégation du commun, du tissu social, et à la célébration de la vulnérabilité qui devient de plus en plus exacerbée. C'est que on se retrouve à avoir une situation où, de moins en moins, on est capable de tolérer le moindre inconvénient qui serait justifié au nom de quoi que ce soit d'autre que l'intérêt personnel. Et ça, tristement, je trouve que les droits et libertés fondamentales, malheureusement, ils peuvent avoir le dos large dans certaines des revendications. Surtout, bon, pas tant dans le domaine juridique. Là, au niveau de, dans le domaine juridique, bon, il y a des critiques à effectuer, mais c'est surtout au niveau de la revendication politique qu'on en fait. Ça, effectivement, il y a discussion jusqu'à quel point, par exemple, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui s'exprimerait sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle est contre la vaccination, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire que cette personne-là est en train de commettre de la haine, est en train de commettre, d'appeler à la mort de vos grands-parents? Quand est-ce que, ou encore quand une personne dit, écoutez, je m'inquiète du financement public des opérations de castration des enfants mineurs, est-ce que cette personne va se faire accuser de transphobie et de sortir tous les éléments controversés?
C'est pas sa liberté individuelle, tout simplement.
Eh bien,
pourquoi devrait-on se sentir obligé? En quoi l'État est-il légitime pour dire qu'il y aurait une bonne parole, une mauvaise parole, et donc prendre des mesures de censure, alors que est juste, c'est simplement de garantir à chacun de pouvoir exprimer des idées qui peuvent nous paraître choquantes, odieuses,
n'importe
quoi.
Mais c'est
quoi.
Là où on rencontre le choc frontal des deux modèles, des deux solitudes éternelles, droit civil et common law, qui voient les choses complètement différemment. Du côté droit civil, du côté civiliste, la liberté d'expression, on l'aborde, et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'on tient particulièrement à notre modèle québécois et à le défendre dans sa différence contre le modèle canadien, c'est que la liberté d'expression, puis toute la question de la discrimination et autres, on la voit dans une perspective formaliste, objective et universaliste, dans le sens que la liberté d'expression, par exemple, on parle de l'incitation à la haine, eh bien, les appels à la déshumanisation, les appels directs les appels directs à la violence, par exemple, ben ça, c'est illégal, on ne va pas laisser passer ça.
Ça relève du pénal.
Exactement, mais en même temps, la liberté d'expression, ça dépasse le privé et le pénal. Là. C'est un concept
voilà,
de
non, mais qui... Il y a une voilà. différence
ben,
entre...
Il y a le pénal voilà. qui s'y applique.
Il y a une différence entre dire, voilà, il faut tuer, parce que voilà, ça relève du pénal, et puis de dire, voilà, moi je suis contre les vaccins, ou je suis climato-sceptique, ou machin.
Exactement, enfin, exactement. Et je vous dirais, ben, prenons par exemple l'affaire Lieutenant Duval qui a eu lieu il y a quelques... je crois qu'il y a 2 ans, mon Dieu, comme le temps passe. Où c'était une professeure de l'Université d'Ottawa qui, en classe, avait prononcé de manière descriptive, uniquement pour parler étymologiquement, avait prononcé le mot « nègre » en classe. Et ça avait déclenché un tollé au sens que, du point de vue de ses étudiants, et d'ailleurs, même la plainte avait été reprise par le recteur de l'Université d'Ottawa. C'est devenu un gros dossier, ça a fait scandale, et ça a même amené le Québec à ouvrir des réflexions sur la liberté académique en elle-même. Mais le simple fait d'avoir prononcé ce mot avait été vécu comme subjectivement offensant par certaines personnes, et voire même par certaines personnes qui étaient même pas présentes dans son cours. Et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut permettre à un individu de venir subjectivement et individuellement redéfinir le cadre de l'acceptabilité sociale ou non? Et il est là le problème. Et là, j'ai pris un exemple anecdotique, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais il est là le problème. C'est qu'à partir du moment donné où vous permettez à l'individu de dire « moi, je me sens X », et que vous lui dites « bon, ben cette définition que vous ressentez subjectivement, elle est le cadre », eh bien, elle est où l'objectivité? Et où, au juste, est-ce que l'interlocuteur peut savoir où est la limite? Et c'est ça le problème. C'est quand on se retrouve à avoir un modèle de droit qui se désagrège dans l'infinité des subjectifs, il n'y a plus de commun. Et ce vivre ensemble commun que le modèle de droit voulait justement arriver à imposer, eh bien, il s'effrite. Regardons les droits et libertés fondamentales. Regardons l'idée initiale de Jacques-Yvan Morin lorsqu'il a adopté la Charte des droits et libertés de la personne au Québec. Alors, initialement, on espérait, initialement, là, nos droits et libertés de la personne, notre Charte des droits et libertés, là, c'est une émanation du Code civil qui a été bonifiée par les travaux de Jacques-Yvan Morin à la lumière du droit international. Et ultimement, eh bien, quand on parle de discrimination, on veut définir, c'est ça le but de la Charte des droits et libertés. Pourquoi est-ce qu'on parle de discrimination? Pourquoi est-ce qu'on parle de liberté fondamentale? Parce qu'on veut identifier des comportements qui, objectivement et pour le bien commun, constituent des fautes, des lignes à ne pas franchir. mais ça s'applique nécessairement au commun. Les libertés fondamentales, elles ne s'adressent pas uniquement à la victime pour qu'elle puisse les revendiquer. Elles s'adressent à tous les citoyens pour qu'on puisse avoir un cadre commun avec des valeurs communes dans le respect de ces lignes à ne pas franchir. Or, à partir du moment donné où vous les subjectivisez à l'infini, à partir du moment donné où vous permettez à l'individu de, au travers de son ressenti, et à partir surtout du moment donné où vous évacuez la démonstration de la causalité, où vous évacuez la démonstration du cause à effet. Et ça, bon, ça c'est plus une critique politique que juridique parce que le droit est arrêté sur la question, mais si vous évacuez la question de l'intention pour vous arrêter dans l'effet, et plus particulièrement l'effet subjectivement ressenti, il devient de plus en plus difficile, pour ne pas dire carrément impossible, à l'autre, à l'interlocuteur, au futur défendeur, à celui qui va se faire accuser d'avoir été discriminatoire, d'avoir été raciste, d'avoir été xophobe sur x, y, z, d'être capable d'anticiper ce qu'on va lui reprocher et même d'ajuster son comportement en conséquence. Donc, il y a un risque de dérive, pas intrinsèque, à cause des libertés fondamentales. Je vous dirais que le risque de dérive, il existe surtout en raison du fait que nous, au Québec, on obéit, on observe, on adhère à un modèle civiliste des libertés fondamentales où on se retrouve à être largement plongé dans un modèle de common law des libertés fondamentales où là, au contraire, la subjectivité et l'individualisme, ben, du côté de common law, vous parliez de John Locke tout à l'heure. Mm-hmm. Si on est dans un modèle de common law où l'État doit avoir un rôle minimaliste et où la véritable liberté de l'individu, c'est de se méfier de l'État, de se protéger contre la tyrannie plutôt que de voir dans l'État...
Ce que disait Tocqueville aussi, d'ailleurs. Et Aristote.
Effectivement, mais d'une manière différente. Et puis Tocqueville et Montesquieu, d'ailleurs, ils voient l'État avec un œil peut-être un peu moins méfiant que John Locke.
Certes.
Mais c'est qu'on a des modèles de société différents. Et vous prenez le modèle individuel de common law et vous l'appliquez à une société de common law. Eh bien, il n'y aura pas d'incohérence. Après ça, politiquement, on peut critiquer. Et ça, ben, je laisse à Londres et à Washington le fait d'avoir leur propre critique. Puis après ça, si vous prenez un modèle civiliste et que vous l'appliquez dans un cadre civiliste, ben au moins ce sera cohérent. Mais ici au Québec, notre plus grand enjeu, parce que je suis fondamentalement convaincu qu'avec notre expérience, avec les 40 plus années de Révolution tranquille qu'on a connues depuis la Révolution tranquille, notre expertise, nos réflexions, notre sens du commun, je pense qu'on est tout à fait en mesure d'avoir notre propre modèle de la laïcité civiliste qui soit le nôtre. Le grand défi, ça va être capable de lui permettre de prendre son plein essor et ses ailes à l'intérieur du cadre canadien du multiculturalisme de common law qui s'y oppose. Et je me questionne sur l'ouverture du cadre canadien de common law face à un tel modèle. Et c'est, ma foi, c'est l'enjeu de la prochaine décade et c'est l'enjeu de ma génération et de la vôtre aussi, chers auditeurs qui nous écoutaient et qui vont nous succéder par la suite. C'est l'enjeu des temps présents.
Est-ce que l'autre grand enjeu... Alors, le temps passe tellement vite. On vous écoute, on se laisse porter. Il est 18h47, on n'a pas écouté les quatre chansons. On a écouté une, mais c'est tellement passionnant que, bon, honnêtement, on peut se passer de ces intermèdes musicaux. Vous aviez pourtant choisi de très bonnes chansons. Pour le générique de fin, on en mettra une. L'autre grand enjeu, pour ces 13-14 minutes qui nous restent, mais qui, à mon avis, va vous passionner, la question, évidemment.
J'écoute.
Est-ce que l'indépendance du Québec est encore un projet réaliste ou n'est-il plus qu'un projet romantique, mais dépassé?
Je vais répondre oui. Oui, l'indépendance du Québec est un projet et un rêve. Par contre, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est dépassé. Depuis 1995 et la discutable défaite référendaire du camp du oui, je persiste à dire aujourd'hui, en 2023, que cette défaite était discutable. Mais elle est passée à l'histoire et aux faits politiques.
Ça fait bientôt 20 ans, oui.
Et oui, et le camp nationaliste est rentré dans ses terres, a pansé ses blessures, et on a quand même connu plus de 15 ans de torpeur libérale où toute la question nationale était tout simplement bannie du discours public. Puis les forces nationalistes et les forces autonomistes étaient de leur côté dans leur terre en train de panser leur plaie. Il n'y avait pas vraiment de discours public. Et pendant ce temps-là, pendant 15 ans de règne libéral, l'administration, la bureaucratie en a subi
les effets. Il y a eu une forme de normalisation, de canadianisation.
D'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire que la population en elle-même a pour autant renoncé. il faut se poser la question, quels sont et quels étaient les idéaux derrière le rêve d'indépendance de nos parents? Et quand on regarde, ils sont toujours là. Le désir d'autodétermination et d'autonomie du Québec. Jadis, peut-être que c'était en matière plus linguistique que ça venait chercher la ferveur et la foi nationale. Aujourd'hui, la langue française intéresse encore, mais peut-être pas avec autant de passion qu'elle intéressait nos parents. Mais il reste quand même la capacité que ce soit à nous de faire ces choix. Cette capacité, ce droit fondamental des peuples à l'autodétermination, ça, c'est quelque chose qui ne vieillit pas. Et aujourd'hui, prenons les grands enjeux. L'environnement, les changements climatiques, la laïcité, le multiculturalisme, tout cela, l'intelligence artificielle, un autre enjeu de demain qui s'en vient et tout. Je pourrais vous énumérer des enjeux pendant, mon Dieu, toute la nuit, mais qui va poser les choix de société face à de tels enjeux? L'indépendance et la souveraineté, c'est être capable, à titre de société, de dire on va faire nous-mêmes nos propres choix et ils ne vont pas nous être imposés par une autorité extérieure sur laquelle on a pas ou peu de contrôle.
Mais est-ce que c'est pas un peu à contre-courant de l'histoire? On voit qu'en Europe, par exemple,
la
plupart des
pas,
États européens ont fondé l'Union européenne, ils se soudent entre eux, en Asie, à l'ASEAN. Est-ce que c'est pas à contre-courant, justement?
J'aurais deux choses à répondre à cela. Premièrement, c'est que non, c'est pas du tout, c'est au contraire. Ce n'est pas au courant de l'histoire parce que c'est carrément lié avec le droit, l'idéal, le rêve, l'espoir profondément humain des peuples à l'autodétermination. Et le Québec et les Québécois forment un peuple. Ça, c'est absolument indiscutable. Et notre désir d'autodétermination est quelque chose de profondément humain. Et de vous dire qu'on irait à contre-courant de l'histoire, ben, je vous dirais, écoutez, on remonte jusqu'aux empires mésopotamiens avec le droit à l'autodétermination. Et puis, ça fait quand même quelques petits millénaires que
les sociétés
humaines cherchent à pouvoir s'unir et se fédérer dans l'auto-reconnaissance et l'autodétermination. Et à cela, eh bien, le Québec, on est un peuple distinct avec des valeurs communes distinctes, une histoire distincte, une langue distincte, et on cherche à se reconnaître et à décider par et pour nous-mêmes de nos choix de société. Et après ça, vous me parliez de « Ah oui, mais qu'arrive-t-il avec les grands ensembles étatiques? » Mais justement, la condition... Alors déjà, on ne va pas parler de l'état de santé des grands super ensembles étatiques. Si on regarde la communauté européenne, l'Union africaine,
ça ne se passe pas très bien.
mais même à cela, même si on met ça de côté, la condition pour devenir un membre au Concert des Nations, c'est d'en être reconnu comme une. Et si on veut participer à cette grande diversité du concert de l'humanité, il faut qu'on y soit une société à la base. Comment pouvez-vous participer à la diversité humaine en tant que société si vous n'avez pas de société, si vous n'avez pas de loi, si vous n'avez pas de territoire, d'État? Ça prend le cadre qui permette à ces sociétés humaines, dans toute leur diversité, d'avoir un petit coin qu'elles appellent « chez nous ». Et à partir duquel elles peuvent se déployer dans le monde plus grand et aussi vers l'interne dans le monde de chez eux. Donc c'est une condition essentielle qui s'inscrit dans l'histoire.
Alors est-ce que ce n'est pas une forme de paradoxe, finalement, que cet idéal indépendantiste, finalement...
Paradoxe, non, pas du tout.
Alors je dirais paradoxe dans le sens où, d'un côté, finalement, on a une France qui abandonne sa souveraineté, abandonne son indépendance pour rentrer dans l'Union européenne et dans un fédéralisme bruxellois. Et le paradoxe ne serait-il pas que, justement, le modèle québécois serait le modèle britannique du Brexit, une sorte de Québécite, en quelque sorte?
Eh bien, nous avons ceci de particulier, et ce n'est pas tant paradoxal plutôt que historique, au sens que le Québec... Nous sommes de souche française, oui, mais comme le dit la chanson, nous sommes nés sous le lys, mais nous avons grandi sous la rose. L'Empire britannique, ses institutions et tout font partie de notre culture et nous les avons intégrées. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, d'une certaine manière, à avoir le meilleur des deux mondes. Bon, je suis un peu idéaliste, certes, mais nous bénéficions à la fois de l'expérience française, mais aussi de l'expérience britannique et aussi en même temps de l'expérience européenne, par sagesse d'une certaine manière, par valeur culturelle, mais aussi en même temps de l'expérience nord-américaine. Le Québec a ceci de particulier que nous sommes à la croisée des chemins et des mondes. Mmh. On est à la fois à la croisée du monde francophone et du monde anglophone, à la croisée du monde européen et du monde nord-américain ou plus largement américain. On est à la fois à la croisée du conservatisme et du progressisme. On est à la croisée des chemins de bien, bien, bien des courants et ça nous donne une perspective qui nous est tout à fait unique. La République, la laïcité, la nation, la société, tout ce que vous voulez, québécoise, elle n'est ni française, ni britannique, ni américaine. Elle est québécoise. Notre propre modèle à nous, qui est au confluent des modèles qui nous ont précédés et à partir desquels nous nous inspirons pour former celui qui est le nôtre.
Et c'est ce qui est en train de se réinventer aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment longtemps d'une certaine forme d'inaudibilité. Voilà.
Mais ce n'est pas pour... Alors, il y a eu, pendant... je vois le temps qui avance et je me dépêche, et ce n'est pas parce qu'il y a eu un certain déficit pendant les années Charest et Couillard d'oreilles pour écouter les voix nationales qui demandaient qu'on les entende que ces voix ont arrêté de parler. Tout simplement, c'est que depuis les dernières années, on assiste à un éveil, à un renouveau du sentiment national, de l'appartenance nationale au Québec, et ces voix qui étaient restées sans interlocuteur commencent maintenant à être de nouveau écoutées, qu'on permet d'y voir quelque chose de profondément encourageant pour l'avenir.
Qu'est-ce que c'est pour vous d'être Québécois? Vous, François Côté, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke.
Une source de fierté, une source d'espoir et beaucoup de travail pour l'avenir.
Bon, on va vous mettre une chanson pour finir cette émission. Merci, François Côté. François.
Ce fut un plaisir.
Également.
Et un honneur.
Alors, je vous laisse choisir. Hein, et parce que du coup, il y avait...
Allons-y pour Les Géants de Locolocas.
Les Géants de Locolocas. Donc, c'est celle que l'on va mettre pour clôturer cette très belle émission. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons Mario Beaulieu, qui est député, et qui sera à votre place, et qui nous parlera lui aussi certainement avec beaucoup de passion de l'indépendance du Québec, et pour cause. Voilà. Donc, Locas, Les Géants, une magnifique chanson choisie par François Côté, que je remercie encore beaucoup pour cette émission très enrichissante et tellement passionnante que du coup, vous voyez, on est parti d'un trait, quoi. Et c'est parti.